faut s'adapter à son époque. Une fois qu'on a ouvert les yeux sur ces problèmes-là, par rapport aux animaux en captivité, on s'est dit que nous, on ne pouvait plus être assimilés à ça, on ne voulait plus. Le déclic, c'est de voir des tigres qu'on a aimés toute leur vie et puis les voir mourir. Ces animaux sont en voie d'extinction et puis ils sont morts dans nos cages. C'était absurde et ça nous a sauté aux yeux à ce moment-là.
André-Joseph Bouglione a provoqué un séisme au sein de sa famille, si légendaire dans le milieu du cirque. En 2017, lui qui a appris à marcher au milieu d'animaux sauvages, décide de s'en passer dans ses spectacles. Il réinvente une formule sans tigre, sans lion, ni ours. C'est aussi une réponse à une attente de plus en plus grande de l'opinion publique. Selon un sondage réalisé en 2018, près de 70% de la population ne supporte plus l'utilisation d'animaux dans les cirques itinérants. Longtemps en retard sur la question, la France est en train de rejoindre la vingtaine de pays européens qui ont déjà mis un terme à cette pratique. D'ici 5 à 8 ans, les propriétaires devront se séparer de leurs bêtes non domestiques. Une bonne partie du milieu crie au scandale.
Ça veut dire que dans les générations qui viendront, il n'y aura plus de cirque traditionnel. On est en train de tout perdre, toute une culture de 150 ans de cirque.
Quand la loi contre la maltraitance animale sera définitivement votée, les circassiens, comme on appelle les professionnels du cirque, seront accompagnés. Une enveloppe de 8 millions d'euros est prévue. Pour les animaux, le reste de leur nouvelle vie se fera dans des refuges. Il y aurait dans les cirques près d'un millier d'animaux non domestiques, dont 500 fauves. Ces bêtes ne peuvent pas être réintroduites en milieu naturel.
Ce sont des animaux qui sont nés en captivité, bien souvent en captivité depuis des générations. Ils sont abrités par l'homme, n'ont jamais appris à chercher leur nourriture. On sait pertinemment qu'ils ne connaissent pas leurs prédateurs.
Avant d'entrer sur la piste aux étoiles, il faut préciser que ce bannissement des animaux sauvages ne concerne que les cirques itinérants, pas les cirques fixes, tels le cirque d'hiver à Paris ou encore les zoos et les parcs animaliers. Le cirque sans animaux sauvages, une révolution sous le chapiteau, c'est un reportage de Géraldine Allot avec Stéphane Beaufils et Alexandra Bergel.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Ah bah regarde, on voit les chapiteaux là. Les chapiteaux blancs et rouges. Nous sommes au cœur du parc naturel régional des Alpilles, à Sénas, au sud de Cavaillon et d'Avignon. Et ici, c'est la base arrière du cirque Royal Carouiche, un cirque itinérant qui détient environ 70 animaux. Tigres, lions, hippopotames, perroquets, entre autres. Et sur ces 4 hectares qui s'ouvrent devant nous, le cirque Carouiche passe l'hiver. Et puis de toute façon, en ce moment, c'est pause forcée à cause du Covid. Il n'y a aucune représentation. Le cirque Carouiche ne prend pas la route, reste ici à demeure. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes William Carouiche ?
Oui, voilà. Vous arrivez, c'est le matin, on commence à s'occuper des animaux, c'est un petit peu la course, tout le monde a faim en même temps.
Donc vous êtes le directeur du cirque.
Oui.
Et vous êtes également le président du syndicat des capacitaires d'animaux.
D'animaux de cirque et de spectacle. Parce qu'aujourd'hui, si on doit interdire les animaux dans les cirques par rapport au spectacle, il faudra interdire aussi au Puy du Fou, il va falloir interdire dans tous les parcs zoologiques, comme Beauval, où ils font 3 et 4 spectacles animaliers par jour.
Vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet.
Oui, direct.
Et là, on entend quoi ?
Des perroquets, des haras. Des haras rona et des haras coloptères. Donc, nous, on est vite dans le sujet tout de suite parce qu'on est attaqué aujourd'hui. Et je pense qu'on a 2 crises à surmonter, le Covid-19 et les écologistes. Donc, je suis direct. Là, on va sortir les chameaux, les dromadaires, parce que la nuit, on les rentre parce que, bon, on a des femelles gestantes et puis, bon, il a fait froid jusqu'à maintenant. Vous allez venir avec moi parce qu'eux ils sont turbulents. Je ne voudrais pas qu'ils vous marchent dessus. Allez. Ils sont rapides.
Oh oui.
Allez. Lui, on va le laisser.
Là, c'est la promenade du matin.
C'est pas la promenade. On les sort tous les jours. Les animaux ne restent pas dans leur loge. Les loges, c'est pour le transport ou la nuit, mais la journée, ils sont dans des parcs de détente qui s'appellent et qui sont aujourd'hui obligatoires dans l'arrêté 2011. Les animaux doivent sortir. Donc ils connaissent la route, ils vont aller chez eux là-bas. Allez, hop. Hop, hop, hop. Alors on leur a mis le petit déjeuner. Ils ont des croissants ce matin, des pains au chocolat, de la luzerne et bien sûr de l'eau. Et après ils vont passer toute leur après-midi dans ce grand parc. Ah, ici, viens ici, viens ici, viens ici. Non, non. Viens ici. Roméo. Roméo, viens là, écoute ton père. Écoute ton papa, viens voir là.
On va voir l'hippopotame.
Ouais.
Donc là, on a un hippopotame qui est en train de brouter dans un enclos qui fait à peu près 100-150 mètres carrés.
Elle s'appelle Bouli. Allez, ouvre la bouche. Fais voir que t'es belle. Allez, ben, tu peux que je te le donne si tu ouvres pas la bouche. Ouvre. Ouvre les grands. Ouais, c'est bien. Alors c'est une bouli, c'est une femelle hippopotame amphibus. C'est la plus grosse race des hippopotames. Elle est âgée de 26 ans. Elle est née dans un parc zoologique. On l'a depuis qu'elle a 8 mois, donc ça fait presque 26 ans qu'elle est avec nous. C'est notre enfant, c'est notre bébé. Elle a été élevée avec mes enfants. Elle est attachée à nous, on l'appelle, elle vient. Quand les enfants viennent au cirque, bon, elle ne fait pas du vélo, hein, c'est comme les associations font croire. Mais quand elle vient dans la piste et qu'elle ouvre la bouche comme elle a fait tout à l'heure, on a tous les gamins qui sont dans les gradins qui ouvrent la bouche aussi, remplis d'hippopotames, et même les parents. Elle est gourmande, elle n'est pas au régime. Hein.
Alors pourquoi lui donner du pain? Est-ce que c'est son aliment naturel?
Non. On lui donne parce que c'est un peu le bonbon, c'est la muse-bouche. Il se nourrit d'herbes, c'est un herbivore, de fruits, de légumes, des choses comme ça. Qui trouve. Tous ces animaux sont présentés dans un tableau, nous on appelle ça un tableau exotique, à notre spectacle. On a M. Loyal qui informe, explique aux enfants la venue des animaux fur et à mesure sur la piste, en disant leur provenance, leurs caractéristiques, toutes ces choses-là. Et c'est le rôle de M. Loyal. C'est très pédagogique et éducatif pour les enfants.
C'est elle qui a la plus grande gueule. Ça, c'est de la gueule. Hein.
Alors moi, je suis Sacha. Je suis le monsieur loyal du Cirque Royal, donc celui qui met en valeur les artistes, s'occuper du montage du chapiteau, s'occuper des animaux, tout ça. Et le reste, c'est le spectacle, mais c'est une infime partie du cirque, quoi, le spectacle.
Cette proposition qui vise à interdire les animaux sauvages dans les cirques, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est dommage de rompre une tradition. Pour moi, un cirque, voilà, c'est ses véhicules, son chapiteau, ses odeurs de pop-corn, barbe à papa, sa ménagerie, ses jongleurs, ses clowns, ses trapézistes, c'est tout, un orchestre, enfin c'est tout ça, quoi. Ça, c'est les vraies valeurs du cirque.
Pour vous, l'avenir, c'est quoi, alors?
L'avenir, j'aimerais que ça continue avec les animaux, mais moi, dans tous les cas, personnellement, si le cirque est sans animaux, je ne ferai plus de cirque.
Vous ferez quoi?
Je sais pas, mais pas de cirque.
Là, on a tout un groupe qui travaille ensemble. C'est un groupe mix qui est présenté au spectacle avec des lions, des lionnes, des tigres et des tigres blancs. Vous allez voir, on va les sortir. Si vous voulez, vous pouvez rester là. Moi, je vais rentrer à l'intérieur parce que je ne peux pas vous faire rentrer à l'intérieur.
On ne préfère pas non plus. Ils ont quoi comme espace là pour eux?
Bon, là, il y en a 200 mètres carrés, 250 mètres carrés. Enfin, nous, on aimerait avoir plus, mais c'est un projet qu'on aura par la suite, parce que c'est un investissement assez lourd. Grande, viens voir. Viens, Grande, viens. On a besoin de sentir ça. Enfin, de sentir et d'entendre. C'est les odeurs, c'est le bruit, c'est tout ce qui se passe dans un cirque. Un cirque, ça a une odeur. Et souvent, les cirques sans animaux, ils n'ont pas d'odeur.
Que la boutade,
c'est des prédateurs, ils restent prédateurs. Nous, on leur casse pas les caractères, on n'en fait pas des chats ou des chiens. C'est des fauves et ça reste des fauves. Ils sont armés, ils ont des dents, ils ont des griffes. Comme certaines associations font croire qu'on leur enlève, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, le spectacle, on est plus dans la présentation que dans la performance. Vous savez, moi j'aime bien prendre pour exemple un cheval de course, il doit faire une performance. Ou il saute le plus haut un obstacle, ou il court le plus vite. Donc on va le cravacher pour aller très vite. Que nous, on n'est pas là pour ça au spectacle. On n'est pas là pour lui faire faire une performance qui va sauter le plus haut ou qui va courir le plus vite. La beauté des animaux était déjà un spectacle. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Allez, va, cours, cours, allez, cours, 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 vite, 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 vite. Toi aussi, cours, cours, allez, vite, cours, vite, 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 vite.
C'est vous qui vous occupez des perroquets?
Des perroquets, oui, c'est moi. Ouais. Oui, c'est moi qui ai passé le certificat de capacité. J'ai passé 3 ans d'expérience avec un autre capacitaire qui travaillait dans le milieu du cirque aussi.
C'est-à-dire que vous avez un diplôme?
Oui. Pour pouvoir présenter les animaux au spectacle, il faut un diplôme. En sachant que ces animaux-là, vous, en tant que personne lambda, vous pouvez les avoir avec juste une autorisation de détention. Mais moi, comme je présente au public, je suis obligée d'avoir 3 ans minimum d'expérience. On ne peut pas mettre les animaux n'importe comment. On est contrôlé, on a des normes de surface à respecter. Donc là, il y a un peu plus que ce qui est prévu. Parce que normalement, là, je pourrais en avoir 6 avec ces normes-là. Là, j'en ai que 5. Donc, voilà. Parce qu'on est contrôlé donc, par les services vétérinaires qui viennent mesurer, contrôler les cages, voir si elles sont bien aux normes. Donc après, ils nous délivrent une autorisation de détention et après une autorisation de présentation au public.
Donc il y a plusieurs filtres.
Oui, beaucoup. Avoir des animaux en France pour présentation publique, c'est très difficile. Donc ça veut dire que les animaux sont dans les bonnes conditions.
Donc là, on est dans la volière et les perroquets font de l'exercice en montant et descendant sur leur cage. Et là, ils volent un peu en liberté ?
Non, je le fais pas. Il y en a qui le font, hein, moi je préfère pas. C'est quand même risqué, c'est prendre des risques.
Qui s'échappent?
Ouais, pour pas grand chose, quoi. Parce qu'ils ont la place de voler dans la volière, donc on sait jamais.
Alors on vous retrouve, William.
Non, vous restez là derrière, vous sentez.
Ah, vous nous avez enfermés dans la cage.
Ah oui, je suis obligée de fermer boulon et cadenas parce que.
Ils démontent.
Ils arrivent à ouvrir, même de l'intérieur, ils arrivent à ouvrir les boulons. Donc je suis obligée, la seule solution qu'on a trouvée maintenant, c'est les cadenas. On avait trouvé les ficelles avec un bon nœud, ils arrivent à défaire les ficelles, ils arrivent à défaire les boulons. Donc maintenant, c'est cadenas, ça, moi, je suis sûre qu'ils ne gagneront pas.
On est toujours avec vous, William Carwish. Vous êtes le directeur du Cirque Royal Carwish et président du syndicat des capacitaires d'animaux de cirque. Et de spectacle. On est dans votre bureau.
Oui.
On va peut-être fermer la porte parce qu'il y a les perroquets qu'on entend. Merci.
Ici, il y a l'animaux.
Depuis combien de temps votre cirque existe?
Ça fait 6 générations.
Est-ce que vous seriez prêt à donner vos animaux si le Parlement adopte définitivement l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants?
Il faut que je le dise méchant ou gentil? Non, mais c'est nos enfants, on les aime, on les a élevés, on les a vus naître. Et aujourd'hui, on nous demande, enfin, sans nous concerter en plus, hein, on nous demande de les mettre dans les refuges, mais ils ont qu'à amener les leurs. Madame Barbara Pompili, elle a qu'à amener son chien si on en a un. Moi, je ne vais pas amener mes animaux dans les refuges. Enfin, c'est pas notre culture. Hein. Nous, on n'a jamais abandonné nos animaux. Dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses, mais les gens de cirque aiment leurs animaux. On ne peut pas nous demander une telle chose.
La position du gouvernement, c'est de dire que les animaux sauvages doivent vivre en liberté et que le transport notamment d'animaux d'un point A à un point B dans le cadre de représentation peut s'apparenter à de la maltraitance. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Il va falloir définir ce que c'est l'itinérance, parce qu'on n'est pas des nomades, on n'est pas des Roms, on est des Français avec domiciliés, avec des bases, et on suit un itinéraire. Il y a une réglementation sur le transport, il faut que l'opinion publique le sache. En France, on est très réglementé, donc il faut une autorisation de transport qui est renouvelée tous les 5 ans. Il y a plusieurs catégories, il y a 3 catégories, donc nous, on a la première catégorie, la plus courte. On a la même réglementation que le transport des bovidés ou des équidés pour l'abattoir ou pour les champs de course ou autre. On se déplace généralement entre 2 et 4 fois par semaine. Nous, on privilégie les villes d'une semaine au minimum. Donc, c'est 4 déplacements par mois. Donc, il y a des chevaux de centre équestre qui vont au concours, qui se déplacent plus que nos animaux de cirque. Hein.
Donc là, on est chez vous, dans votre base arrière. On voit que vos animaux ont de l'espace. Mais quand vous êtes en itinérance, comment ils sont, vos animaux?
En itinérance, on est un petit peu tributaire des emplacements qu'on nous donne. Ça, on l'a signalé au gouvernement. On a besoin que les communes nous accueillent sur des lieux vraiment adaptés pour nos animaux. Parce que c'est contradictoire. On a d'un côté le gouvernement, enfin le ministère de l'écologie qui nous dit il y a tant de surfaces à respecter, mais on a les communes qui nous donnent des emplacements qui ne sont pas assez grands.
Ils viennent d'où vos animaux ? Par exemple, tigre, lion, vous les avez eu où ?
Alors depuis 1985, les permis d'exportation, d'importation ne sont plus délivrés. Donc tous les animaux qu'il y a dans les cirques et pratiquement également dans les parcs zoologiques sont issus de programmes de reproduction nés en captivité. Et c'est des animaux qui sont issus de la faune sauvage, mais ils ne sont pas sauvages. Donc ils savent pas se défendre, ils savent pas tuer, ils savent pas chasser. Donc ils sont proches de l'homme. Donc c'est pas des animaux sauvages. Si on a une interdiction, on gardera nos animaux, on fera plus de cirque.
Mais vous ferez quoi alors ?
On fera autre chose. Ça veut dire que dans les générations qui viendront, il n'y aura plus de cirque traditionnel. Il restera quelques compagnies de théâtre acrobatique, de spectacles pour les grandes villes, pour les adultes souvent, pas des spectacles populaires et familiales. On est en train de tout perdre, toute une culture de 150 ans de cirque.
L'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants a été annoncée en septembre dernier par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Pour être effective, elle doit être entérinée par la loi. Ce devrait être chose faite d'ici la fin de l'année.
Communication établie.
Bonjour.
Bonjour, nous avons rendez-vous avec Loïc Dombreval. Nous sommes de France Inter.
Alors,
c'est
bonjour et puis on va passer le contrôle. Allez.
La proposition de loi contre la maltraitance animale, qui reprend entre autres mesures cette interdiction, a été adoptée fin janvier en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle doit maintenant être examinée au Sénat. Loïc Dombreval, député La République En Marche des Alpes-Maritimes et vétérinaire de formation, est l'un des co-auteurs de cette proposition de loi.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai que 5 minutes de retard.
Ce n'est pas un retard alors.
Ça va, vous ne voulez pas ? Bonjour.
Enchantée, Géraldine Allo.
Loïc Dombreval.
Il y a 60 cirques animaliers en France, à peu près 700 animaux sauvages, dont 500 fauves. Que faire de tous ces animaux ?
Alors déjà, on a du mal à estimer le nombre de cirques qu'il y a en France avec animaux sauvages. Globalement, personne n'en sait à peu près rien. De même que vous évoquez le chiffre de 500 fauves, moi je pense qu'il y en a plus que ça. Et qu'on est plutôt, me semble-t-il, sur un chiffre qui varie. Et écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment intéressant, du simple au double de 500, on ne sait pas exactement s'il y en a entre 500 et 900, peut-être 1000. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ? Parce qu'ils ne sont pas identifiés, pour un certain nombre d'entre eux. Identifiés avec une puce d'identification électronique qui correspond à la loi. Il y a un fichier d'identification électronique de ces fauves en France. Ils devraient tous être identifiés, ce n'est pas le cas. Ça pose aussi une question.
Alors que faire de tous ces animaux ?
Les placer dans des endroits dans lesquels ils pourront achever leur vie dans les meilleures conditions possibles. Il y a trois endroits aujourd'hui en France qui sont en capacité à accueillir des fauves. D'accord ? Trois sanctuaires pour animaux type fauve. Moi, je dis également que les parcs zoologiques doivent prendre toute leur part dans ce reclassement, dans cette retraite de ces animaux.
Donc, on pourrait les placer, ces animaux sauvages, dans des refuges type tanière que nous allons visiter ou dans des parcs animaliers. Est-ce qu'il y a assez de structures en France pour absorber tous ces animaux ?
Probablement pas assez. Et donc, il va falloir, si on veut vraiment cette transition et si on veut aller au bout de la logique qui va être votée, réfléchir également à de quelle façon est-ce qu'on peut créer de nouveaux sanctuaires.
Les cirques animaliers, d'après les chiffres du syndicat des capacitaires d'animaux, c'est 3000 emplois directs. Qu'est-ce que vont devenir ces 3000 emplois ? Ça passe forcément par des reconversions, parce que ces gens-là, ces circassiens qui possèdent des animaux, ils sont nés quasiment avec leurs animaux, ils sont nés dans la sueur des cirques, ils ne savent pas faire autre chose.
Ah si, ah ben si, ils savent faire beaucoup d'autres choses. Il y a plein de cirques dans le monde qui n'ont pas forcément d'animaux sauvages et qui font des spectacles absolument extraordinaires. C'est là-dessus aussi qu'il va falloir les aider dans la transition. Il faut que le ministère de la Culture mette aussi la main à la poche pour aider à cette transition, à cette reconversion, pour faire plus de trapèzes, plus d'équilibre, plus de jongle, plus de ce que vous voulez. C'est ça aussi la responsabilité que l'on doit à ces professionnels.
Là, c'est le vétérinaire qui parle.
Mais oui, parce que ça va. On sait que l'homme, il est supérieur aux autres espèces animales. C'est bon. Et à force de se sentir supérieur et de penser qu'il l'est, on arrive à des situations comme celle du Covid. C'est ça dont il s'agit. Quand on va déglinguer la biodiversité, les forêts, les machins, et qu'on met en contact des espèces sauvages avec des espèces domestiques, qu'on fait tout ça et qu'on s'imagine que tout ça, en fait, ce sont des choses, des biens. C'est désastreux. Il faut arrêter ça. Et ça commence par une prise de conscience qui doit se faire au plus jeune âge de l'animal sauvage, c'est un animal qui est en liberté. Éventuellement, on peut le mettre en semi-liberté parce qu'il y a un intérêt pédagogique à ça, ou de conservation, ou de réintroduction. Mais pas le dresser. Voilà, moi ça me pose un vrai problème.
Certains professionnels n'ont pas attendu cette interdiction pour réinventer leur spectacle. Un cirque sans animaux, c'est le choix fait il y a 3 ans par André-Joseph Bouglione, qui a dirigé le cirque Joseph Bouglione du nom de son grand-père. À la place, des hologrammes sont projetés. C'est l'éco-cirque qu'il a créé avec sa femme, car le but, c'est aussi de réduire au maximum l'empreinte carbone engendrée par les représentations. En attendant la reprise des activités interrompues à cause du Covid, l'éco-cirque est en répétition à Montpellier, où nous retrouvons Géraldine Allot et Alexandra Bergel.
Bonjour.
Bonjour.
On vous reconnaît. Le chapeau, les lunettes et la veste.
C'est gentil. Ah. Bienvenue.
Merci. On va vous suivre.
Ben oui. C'est un chapiteau qui a été fait pour le spectacle 100% humain. Et bien là maintenant on est un petit peu pas bloqué, mais on attend ici quoi. Et c'est un lieu de résidence formidable. C'est un petit paradis pour répéter, il fait chaud, il fait beau, les artistes sont super bien.
Voilà, on rentre sous le chapiteau. André-Joseph Bouglione, donc vous êtes issu d'une des grandes familles du cirque français. Vous êtes l'un des petits-fils de Joseph Bouglione. Et vous étiez à la tête du cirque éponyme, donc du cirque Joseph Bouglione, de 1991 à 2017. C'était un cirque itinérant avec des animaux sauvages. Puis vous avez arrêté et vous vous êtes lancé dans l'éco-cirque. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il faut évoluer, il faut s'adapter à son époque. Une fois qu'on a ouvert les yeux sur ces problèmes-là, par rapport aux animaux en captivité, par rapport à ce qui se passe dans le métier, on s'est dit que nous, on ne pouvait plus être assimilés à ça, on ne voulait plus.
C'était quoi le déclic ?
Le déclic, c'est de voir des tigres qu'on a aimés toute leur vie et puis les voir mourir. Et voilà, on s'est dit finalement, ces animaux sont en voie d'extinction et puis ils sont morts dans nos cages. C'est idiot, quelque part. Ça n'a pas de sens. C'était absurde et ça nous a sauté aux yeux à ce moment-là.
Vous aviez eu des réflexions du public qui vous disaient « Non mais nous, c'est pas possible, on ne veut plus voir d'animaux ?»
Bien sûr, mais depuis toujours. Je suis né dans un climat où il y a toujours eu contestation autour des animaux de cirque, depuis ma naissance, depuis même avant. L'époque de Brigitte Bardot qui s'engage pour les animaux, c'est le début des années 70. Et moi, je suis né en 73. Donc, j'ai toujours été bercé dans ce climat, un petit peu de contestation, où il y avait toujours besoin de se justifier. Mais tout d'un coup, on n'arrivait plus, nous-mêmes, à se justifier à nos propres yeux.
Vous renoncez à vos animaux donc en 2017. Qu'est-ce que vous en faites à ce moment-là, vos animaux ?
Eh bien, on les a placés dans un refuge, les tigres. Il n'y en avait plus beaucoup. Et ensuite, on a gardé nos animaux domestiques. Certains sont morts de vieillesse chez nous.
Quand vous prenez cette décision, comment a réagi votre famille, donc la famille Bouglione, dont une partie détient toujours le cirque d'hiver, qui continue, alors pas en ce moment parce qu'il y a le Covid, mais qui continue les spectacles normalement avec les animaux. Comment votre famille a réagi ?
Eh bien, ils ont très très mal réagi, ils l'ont très mal pris. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute la profession. En réalité, la famille, c'est une petite proportion de ce qui s'est passé. Il y a eu tellement une vague de messages, d'insultes, de tentatives d'intimidation, de menaces de mort, enfin voilà.
Il y a encore une grosse partie de la profession qui vous en veut, on a l'impression, non ?
Oui, s'ils veulent. Honnêtement, je suis totalement indifférent. Les seuls dont l'opinion m'importe, pour moi, c'est le public. Mais la profession, on s'en fout. Les derniers sondages me donnent raison, puisque c'est entre 70 et 80% de la population française qui est favorable à l'interdiction des animaux dans les cirques.
Vous êtes né au milieu des animaux.
Oui.
En particulier sauvages. Ça n'a pas été un choix trop compliqué à faire ?
Non, mais extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, parce qu'il faut savoir aussi, on est une corporation pour laquelle c'est aussi une question d'honneur, une question même de virilité. Ce qui est idiot, totalement. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça.
Les enfants, vous jouez pas à côté du tulle, on fait des essais, poussez-vous.
Donc là, on est dans le noir et on va monter voir Sandrine, la femme d'André-Joseph Bouglione. On essaie de pas se casser la figure. Donc on est en haut du chapiteau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur l'ancienne version du Bouglione.
Vous êtes Sandrine Bouglione.
Oui, enchantée.
Ancienne dompteuse.
Yes.
Co-présidente du cirque, de l'éco-cirque.
Absolument.
Là, on est à côté de deux techniciens. Qu'est-ce qu'ils font ?
Oui, on est à la régie donc, de l'éco-cirque. Et là, on fait des tests avec nos nouveaux hologrammes. On a décidé de prendre notre mal en patience pendant cette période Covid qui nous empêche de jouer. Et on a fait appel à un nouveau studio, donc le studio Stila, à toute une jeune équipe de créateurs. Et donc là, ils font les premiers tests. C'est le premier jour du test. Voilà, on a plein de petits ajustements à faire, de taille, de mouvement, de timing. Et voilà, on profite pour faire ça.
Donc ici, il n'y a pas d'animaux sauvages, mais il y a des hologrammes. Ils sont projetés sur un fond en tissu, c'est
en
ça ?
En tulle, oui, tout en à tulle. Fait, c'est un tulle. Donc on peut projeter des hologrammes sur plein de matières différentes. On peut même projeter des hologrammes sur de la fumée, si on le souhaite. Et donc, on a vraiment l'impression que l'animal est réel et qu'il est en train de flotter et d'évoluer autour de nous.
Et c'est pour ça qu'on est complètement dans le noir.
Là, oui.
On va essayer de ne pas se casser la figure. On peut aller parler à vos techniciens ? Bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous appelez ?
Paul Vivien.
Alors Paul, comment on fait des hologrammes avec des animaux ? Est-ce qu'on est obligé de les filmer avant ou on les crée de toutes pièces sur ordinateur ?
On va plutôt les créer toutes pièces sur ordinateur. La difficulté après, c'est de réussir à reproduire des mouvements qui sont le plus réaliste possible. Donc on a quand même besoin d'images de référence. On va regarder des vidéos documentaires d'animaux pour voir un petit peu comment ils marchent, comment ils se comportent, comment tombe la queue, les poils, etc., pour reproduire au mieux, de manière la plus réaliste possible, leurs mouvements.
Donc c'est vraiment de l'animation, l'animation 3D.
Oui, c'est ça, complètement. On anime chaque articulation une par une pour venir simuler, imiter les mouvements de l'animal réel.
Qu'est-ce que vous pouvez faire comme type d'animal ?
On peut faire tous les animaux existants, en vrai. Et après, quand les hologrammes iront un petit peu plus loin, on s'amusera même, je pense, à inventer des animaux plus complexes, plus fantastiques dans un deuxième temps.
Faire un spectacle avec des hologrammes, c'est un travail de titan. 40 secondes d'animation requiert 15 jours de travail à temps plein pour le studio Stila.
C'est pas encore bien réglé.
Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait une petite montagne.
On dirait une petite montagne de petite montagne naine.
C'est peut-être juste la couleur, je sais pas.
Et ce qu'on voyait avec André tout à l'heure, c'est que peut-être que c'est trop lumineux pour pour un clair de lune. On a l'impression qu'on est sous l'eau plutôt que d'être hors de l'eau.
Ouais.
Donc là, André-Joseph et Sandrine Bouglione assistent à une répétition des hologrammes. C'est une forêt qui est projetée sur le fond et ils vont ensuite incruster les animaux.
Remarque, c'est la nuit, il est là, c'est stagnant.
Après, la caméra plonge dans le lac après.
Ah, dans ce cas-là, oui.
Pour la transition avec le fond marin.
Ouais.
Ouais, mais je pense qu'il faut quand même faire un test parce sur cette scène-là, j'ai des comédiens qui sont entre les deux et qui font des actions avec les hologrammes qui sont devant.
Ouais, on essaiera de mettre des choses, mais sinon il y a aussi la possibilité de mettre des éléments sur les panneaux LED qui sont sur les bords.
D'accord.
Ah, ça y est, il y a un lion qui est projeté sur le fond en tulle. On s'y croirait, hein, Sandrine.
Eh bien, ça fait drôle d'accueillir son premier lion hologramme. Je les ai tellement côtoyés pour de vrai. La première fois que je suis rentrée en cage avec mon père, j'avais 13 ans. On devait mettre des lions sur des chevaux. Et donc, voilà, j'étais l'assistante de mon père et toute une part de vie. Et là, voilà, ça fait drôle. Ça fait drôle et je suis ravie d'avoir cet animal emblématique du cirque présent, représenté quelque part. Il a sa place. Il fait partie de l'histoire du cirque. Et donc, c'est un peu comme un hommage quelque part. Ils ont utilisé beaucoup d'images prises en Afrique, de vrais lions en meute, se sont inspirés de ces mouvements. Encore quelques petites asymétries, je trouve, sur le saut. Et là, il n'a pas encore sa crinière, parce que ça sera un mâle. Mais c'est très réaliste, oui, je suis vraiment ravie d'avoir des animaux avec les sensations, le poil. Là, on parlait du rugissement, comment on allait faire, comment on allait le faire vivre, tout simplement.
Ça permet de faire découvrir les animaux sauvages sans devoir les mettre en cage.
Tout à fait. Moi, je suis vraiment maintenant contre la captivité en réalité, c'est ça le maltraitance, pas maltraitant. Je veux dire, j'ai jamais eu l'impression d'être maltraitante envers mes animaux, mais je pense que le simple fait de les détenir pour un divertissement est assez compliqué. Ici, c'est un peu la tour de Babel. Il y a 26 artistes originaires du monde entier, une dizaine de techniciens également. On a des acrobates russes, des gymnastes polonaises, on a des Ukrainiens. Voilà, ils viennent d'à peu près partout dans le monde et on entend parler russe, polonais, anglais, beaucoup aussi. On vous retrouve, Sandrine Bouglione. Votre reconversion, elle a coûté 2,5 millions d'euros, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Or, le gouvernement envisage d'accompagner les cirques quand ils renonceront à leurs animaux sauvages avec une enveloppe totale de 8 millions d'euros. Ça montre quand même que le compte n'y est pas encore, le compte financier.
Alors, on est allé, nous, personnellement, beaucoup plus loin que de présenter un cirque sans animaux, quelque part. Nous sommes partis d'une page blanche et nous sommes partis de constats de pas mal de problématiques que nous avions, ne serait-ce que les poids lourds. Je veux dire, un cirque comme celui-ci nécessiterait environ 30 poids lourds. Nous ne voulons pas de poids lourds polluants. Nous avons fait des recherches par rapport à l'énergie, par rapport aux matériaux. Là, notre scène, elle est recyclée. Enfin, voilà. Proposer une forme de spectacle familial, mais adapté à notre époque. Donc avec, voilà, une certaine éthique, un certain souci d'écologie. Par exemple, tout le spectacle est en énergie verte renouvelable avec notre partenaire Enercop. Donc on a zéro CO2 pour faire du spectacle. On n'agit pas pour la planète, mais on ne dégrade pas les choses pour un divertissement. C'est vraiment le projet d'une vie. C'est une reconversion en profondeur. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes deux saltimbanques. On est parti avec des business plans et on est parti chercher des investisseurs. Ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait dans notre milieu. Mais on avait besoin, ayant vécu une rupture aussi violente avec la profession, on avait besoin de faire un projet qui nous ressemblait et pour laquelle on avait envie de se lever tous les matins, de se battre. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On peut se réformer sans aucun problème. On a des artistes extraordinaires dans le monde entier qui rêvent que d'une chose, c'est de venir travailler en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays du monde, même dans des pays en guerre, même dans des pays où les droits de l'homme sont plus que bâclés, il y a des écoles de cirque. On a un vivier d'artistes aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10, 15, 20 ans. Il est où le problème? Il faut juste créer et ouvrir son esprit et aller de l'avant.
Interception sur France Inter.
Les primates, hier j'ai vu que dans le nouvel enclos des babouins, il y avait des pies. Je ne suis pas sûr qu'elles puissent ressortir. Peut-être les sortir avant de lâcher les babouins.
On va essayer, monsieur
Violas,
sinon ça sera un petit enregistrement.
Ouais, j'ai tout enregistré là en plus.
Quand la loi sur la maltraitance animale sera adoptée, les fauves, les ours et toutes les espèces sauvages devront passer leur retraite dans des refuges. Il faudra en construire de nouveaux, il n'y en a que 3 aujourd'hui en France. Ils sont situés dans la Loire, en Mayenne, et le dernier est tout près de Chartres. C'est la tanière où s'est rendue Géraldine Allot.
Alors j'ai noté quelques chiffres. Ici à l'hôpital refuge de la Tanière, il y a plus de 600 animaux sur 20 hectares de terrain. En grande majorité, ces animaux ont été saisis par les services de douane ou par l'Office français de la biodiversité, soit pour suspicion de mauvais traitement, soit pour trafic illégal. Et certains étaient aussi des cobayes de laboratoire. Et donc une fois qu'ils sont saisis, ces animaux sont envoyés ici pour être soignés, pour être tout simplement sauvés.
D'abord, je voulais dire un grand bravo à tout le monde pour le transfert des babouins, au service vétérinaire bien sûr, mais aussi à tous les soigneurs. Ce matin, Mélissa n'est pas plus réveillée que les babouins, je pense. Mais... c'est juste que, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir à la grande volière, mais peut-être que lundi, j'en sais rien. Mais juste soyez conscients que ce que vous leur donnez là dans la grande volière, ils n'ont jamais connu. Là où vous étiez à Besançon, c'était pas du tout comme ça. Ils n'ont jamais grimpé aussi haut, ils n'ont jamais eu autant d'espace pour eux. Donc vous leur offrez tous vraiment le premier jour du reste de leur vie. Bravo à vous. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses au niveau animaux?
Patrick Vielas, je suis le fondateur avec mon épouse du zoo refuge La Tanière, qui était au départ uniquement un refuge et qui vu le besoin et la taille que ça prend, devient un zoo-refuge.
Nous sommes à côté de singes. D'où viennent-ils ces singes ?
De primates, de macaques qui sortent tout droit de laboratoire. Ceux-là sont des animaux qui ont travaillé sur la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, avec Canel, notre doyenne, qui est un peu froid là aujourd'hui avec le vent, qui est rentré dans la cage de laboratoire à 2 ans, qui est ressorti à 21 ans de la cage de laboratoire. Elle a fait 3 cycles, maladie d'Alzheimer, Parkinson principalement. Et elle a encore 14-15 ans à vivre, donc nous on se fait fort de lui faire une belle retraite. Tous ces loges-là nous servent à faire des mises en contact, parce que très souvent ils sont seuls dans les laboratoires, mais certains sont arrivés ici à 15-20 ans, et pour la première fois de leur vie, ils voyaient un autre primate. 15-20 ans pour eux, ça correspond à 45-50 ans pour un humain. Vous imaginez si à 45-50 ans, pour la première fois, vous découvrez l'eau, l'air, le vent, la pluie et les autres humains.
On va se mettre un petit peu à l'abri, parce qu'il pleut. Patrick Violas, donc c'est vous, le fondateur de La Tanière. Vous avez ouvert ce refuge en 2011 après une première carrière dans la téléphonie mobile. En 2011, à l'époque, ce ne sont que des animaux domestiques que vous accueillez.
Tout à fait.
Et puis à partir de 2016, vous accueillez des animaux sauvages. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme animaux sauvages ?
On part de la tortue la plus petite qui fait 20 grammes jusqu'à l'éléphant de plusieurs tonnes, en passant par des lions, des tigres, des singes, des otaries, des babouins, des macaques, beaucoup d'oiseaux, de perroquets. Les animaux qui arrivent chez nous sont de plusieurs ordres. Il y a 60 à 70% sont des animaux qui sont saisis par les autorités. On intervient très souvent le matin en perquisition avec les autorités. Saisis sur du trafic, saisis sur de la détention illégale. Alors quand je dis détention illégale, c'est détention illégale et mauvaise condition de détention. Les animaux aussi que les gens nous amènent, et là avec la Covid, il y en a eu beaucoup, les gens ont pris peur, que les oiseaux transmettent, que les petits singes transmettent.
Donc là, actuellement, vous avez déjà des animaux de cirque ici. Est-ce que vous êtes prêt à en accueillir des centaines d'autres si l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants est définitivement votée au Parlement ?
Alors, pour accueillir des centaines, aujourd'hui non, et personne n'est prêt pour accueillir des centaines, il va falloir aménager des parcs. On est prêt à en accueillir, nous, 100, une centaine. Il y en a 800 aujourd'hui, des animaux sauvages dans les cirques, à peu près. Les choses vont se faire dans la durée, ça ne va pas tomber comme un coup près. On a travaillé, on a fait beaucoup de réunions avec les ministères. J'ai même un jour, moi, fait un devis au ministère pour savoir combien ça coûterait pour construire pour tous les animaux de cirque.
Mais ça coûterait combien ?
Ça coûterait à peu près 25 millions d'euros de construire. Et ça coûterait une dizaine de millions d'euros pour l'entretien la première année. Puis ça irait décroissant, forcément, avec le nombre d'animaux qui diminuerait.
Pour l'instant, on n'en est pas là au niveau du financement du gouvernement.
Alors, pour l'instant, au niveau du financement, rien n'est clair. Aujourd'hui, rien n'est fait. Mais il y a des gens qui travaillent sur les solutions. Et je pense que la solution qui se dessine, c'est d'accompagner les structures existantes. Déjà, on est 2 ou 3 en France, enfin 3 ou 4. Et puis je pense aussi qu'on ne va pas accueillir que les animaux de cirque. Dans un certain nombre de cas, on va aussi accueillir les gens du cirque. Nous, on est prêts pour ça. On ne peut pas, demain, séparer les animaux de cirque de leurs propriétaires. On ferait du mal à tout le monde.
D'ailleurs, vous avez un couple de circassiens, d'anciens circassiens espagnols, oui, qui est venu ici se réfugier avec leurs animaux parce qu'ils ont voulu arrêter le cirque.
Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas réfugiés, ils sont venus s'installer et vivre ici depuis 5 ans.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Paolo ?
Oui.
Face à nous, il y a des ours. Ce sont les vôtres ?
Oui, c'est les miens, oui. Où j'y vais, moi, ils vont eux.
Vous les suivez ?
Oui. Alors là, on a 5 ours. J'ai une qui s'appelle Jack, Tognito, Bambi, après Canel et Canaï.
J'y vais.
Donc là, on a Paolo qui rentre dans l'enclos où se trouvent ses ours. Alors c'est étonnant, c'est qu'il lui saute dessus pour lui faire des câlins. Voilà, donc Paolo est entouré de 3 de ses ours. Et c'est la séance bisous.
Mais ça, c'est parce qu'ils sont nés avec nous. On a donné le biberon et tout ça. C'est pas que on prend un ours et on fait ça, hein. Pauvre picouline.
Et ça pèse combien un ours comme ça ?
Ben lui, maintenant, il pesait 270.
270 kilos.
Ouais, ouais.
Et donc là, vous avez un ours de 270 kilos qui est en train de sucer le pouce de Paolo. Dans une vie antérieure, vous travaillez avec votre épouse dans des cirques itinérants, un peu partout dans le monde, ouais, notamment en Espagne, ouais, avec ces ours qu'on vient de voir. Ouais. Pourquoi vous avez choisi d'arrêter le cirque itinérant ?
On avait toujours eu un petit peu l'envie de changer un peu de la vie aussi. Parce que c'est, il faut voir, c'est une vie un peu dure. Parce que avec les animaux, c'est très dur. Eux, ils ont été élevés dans la maison avec nous. C'est pas qu'ils étaient dans une remorque, ils étaient dans la maison avec nous. Un ours, quand il a 6-7 mois, il commence déjà à casser un peu tout. Alors, c'est un problème. Et alors, on était fatigué un peu de tout ça.
De l'itinérance.
De l'itinérance, un peu de les gens qui te jugent sans savoir ce qu'il y a derrière.
On vous jugeait comment ?
Ah ben, on connaît des maltraitants d'animaux et tout ça. Il y en a eu beaucoup. Hein.
Ici, vos animaux, ils ont de l'espace, ils ne sont pas en itinérance, ils ne sont pas trimballés d'un point A à un point B. Pour ouais, autant, est-ce qu'un jour, ils retrouveront la liberté ou c'est impossible ?
C'est impossible.
On se retourne vers vous, Sophie Fernandez-Petitot. Vous travaillez également ici à la tanière. Pourquoi ces ours et aussi tous les autres animaux sauvages que vous avez recueillis ici, vous ne pouvez pas les réintroduire dans leur milieu naturel ?
Ce sont des animaux qui sont nés en captivité, bien souvent en captivité depuis des générations. Ils n'ont pas les codes, leurs parents n'avaient d'ailleurs pas les codes non plus. C'est des animaux qui n'ont jamais appris à construire leur propre abri. Ils sont abrités par l'homme, n'ont jamais appris à chercher leur nourriture. Donc ne sauraient pas dans la nature quelle nourriture peut leur être délétère. De la même manière, si on les relâche en milieu naturel et on aimerait beaucoup, on sait pertinemment qu'ils ne connaissent pas leurs prédateurs. Aujourd'hui, ils sont protégés par l'homme dans l'endroit où ils se trouvent. Tout ça semble quand même une belle image d'Épinal pour les personnes qui souhaitent faire du réensauvagement. Mais on sait qu'il y aura de la perte, une très grosse perte. Donc on sait que c'est quelque chose qui n'est pas possible actuellement.
Donc ici, vous les soignez, vous les réparez ?
C'est ça. Ici, lorsqu'on récupère un animal, la première chose, c'est déjà de le sécuriser, de l'abriter. Ensuite, de le réhabiliter. Alors la réhabilitation, elle est diverse. Hein. Elle est dans un premier temps administrative. Bien souvent, c'est des animaux qui n'ont pas de légalité, qui n'ont pas d'identité sur le plan administratif. Donc c'est le premier pas. Le deuxième, c'est que dans la plupart des cas, les animaux nous arrivent bien souvent dans un état physique pas très bon. Et là, on les répare, entre guillemets, on les soigne. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on les répare également psychologiquement, puisque tous ces mauvais traitements, même si c'était de la maltraitance passive, causent beaucoup de dégâts sur ces animaux-là.
Est-ce qu'ils sont voués à rester ici toute leur vie ou certains pourront rejoindre des parcs animaliers ou autres ?
Alors, le but de la tanière n'est pas d'engranger des animaux issus de sauvetage et de tous les conserver. Il y en a beaucoup d'abord à sauver. On n'aurait pas la place, hein, au bout d'un moment on serait saturé. Donc non. Le but c'est vraiment de les abriter, de les réhabiliter, de les remettre sur pattes et de pouvoir, tant que faire se peut, les replacer.
Dans des parcs animaliers ?
Dans des parcs animaliers, oui, tout à fait, c'est possible. On a eu une grosse opération l'année dernière de sauvetage, notamment avec des perroquets qu'on a sauvés en masse, qui sont arrivés chez nous dans un piteux état, très peu de plumes sur le corps, ils ressemblaient un petit peu à des poulets nus. Une fois le processus en route, une fois la réhabilitation administrative, une fois qu'ils ont pu reprendre du plumage, une des premières choses que l'on a faites, ça a été de contacter un parc qui allait ouvrir et qui s'intéressait beaucoup aux perroquets pour pouvoir les replacer là-bas. Et aujourd'hui, c'est chose faite, on en a plus de 100 qui sont repartis.
On revient vers vous, Patrick Violas. Devant nous, il y a deux lions. Leur histoire avait très mal commencé, mais ça se finit bien.
Oui, ils avaient bien mal commencé dans la vie. Ce sont Léo et Zampa. Contrairement aux apparences, ce sont des lions, malgré qu'il n'y ait pas de crinière. Ce sont des animaux qui ont été enlevés tout petits à leur moment, en Espagne, là-bas, élevés au biberon pour être plus dociles. Ils ont été castrés bien trop jeunes, donc la crinière n'a pas poussé. Ils ont été castrés dans le premier mois. Et ils ont été aussi et surtout dégriffés. Et comme c'est interdit, c'était fait par des charlatans, donc ils ont mal à leurs pattes. Et ils ont servi pendant 3, 4, 5 mois de leur vie à faire des photos sur les plages en Espagne. Il fallait pas qu'ils aient le griffe pour les mettre dans les bras des enfants. À faire des photos sur les plages et dans les boîtes de nuit le soir. Ils avaient travaillé en 2-8. Ils ont ensuite fait 3, 4 cirques différents. Heureusement, le dernier cirque qui les possédait a eu l'intelligence de nous les amener. Ils ont, je pense malheureusement, vocation à finir leur vie ici, mais ici ils sont heureux. On les a opérés déjà deux fois des yeux, deux fois des griffes, des phalanges. On sait qu'ils souffrent pas. Dès qu'on voit qu'ils souffrent, on intervient. Voilà, ils sont tranquilles, c'est vraiment la force tranquille, parce qu'ils font quand même près de 300 kilos et ils mangent chacun 15 poulets par jour.
Donc ces lions vont rester ici?
Oui, ces deux lions vont rester ici, d'abord parce que personne ne les voudra, et ensuite on va s'en servir pour faire de la pédagogie auprès des enfants, leur expliquer que si on se fait prendre en photo avec un bébé lion ou un bébé tigre, à cause de cette photo qui certes va peut-être faire 2 ou 3 000 j'aime sur les réseaux sociaux, à cause de cette photo, la vie de ces animaux est foutue. On sacrifie, à chaque fois qu'on fait ça, on sacrifie. Les jeunes ont compris qu'il fallait pas acheter les vagues par terre, qu'il fallait pas consommer l'eau, etc. Et ben, de la même manière, il faut pas se faire prendre en photo avec des animaux sauvages.
Le cirque sans animaux sauvages, une révolution sous le chapiteau, c'était un reportage de Géraldine Allot avec Alexandra Bergel et Stéphane Beaufils à la prise de son, réalisation Juliette Medevielle, assistée de Martine Messonnier, mixage Sébastien Royer. Après le journal de 10 heures, Eva Bester reçoit la dessinatrice Pénélope Bagieux qui va nous livrer son remède à la mélancolie.